Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin, je suis responsable et enseignant du groupe de jeunes adultes ici depuis bientôt 2 ans. Et bah, je ne vous cacherai pas que je suis un petit peu stressé d'être ici parce que c'est la première fois et surtout aussi dans la crainte parce que c'est une grande responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Mais c'est surtout une grande joie parce qu'on est tous ensemble et on est ensemble pour célébrer notre grand Dieu. On est ensemble pour être au contact de sa parole et c'est une grâce de pouvoir le faire librement aujourd'hui, de pouvoir le faire librement en France. Et ce matin, on va continuer notre parcours dans la première épître de Pierre. Alors, si certains étaient là les dernières fois, vous vous souvenez peut-être que Pierre, il s'adresse à un public un petit peu particulier. Pierre, il s'adresse à des personnes qui sont dans la souffrance, à des chrétiens qui traversent l'épreuve. Et son but, le but de cette épître, c'est de répondre à une grande question. Et cette grande question, c'est comment traverser la souffrance? Comment tenir ferme dans l'épreuve? Comment avancer malgré les difficultés de notre vie? Et en fait, on est tous concernés par ça. Je n'ai pas besoin de faire un sondage ce matin. Je sais que tous nous sommes passés par la souffrance. Tous nous sommes passés par des épreuves où on y passe peut-être en ce moment. On a tous des souffrances différentes. Certains ont souffert plus. On a tous connu des épreuves différentes. Mais tous, on a connu des épreuves réelles et des souffrances réelles. Et ce matin, le but de Pierre, c'est de nous encourager. De nous encourager, et ça a encouragé les premiers chrétiens, les premiers destinataires de l'épître de Pierre. Cette lettre a encouragé aussi des chrétiens tout au long de l'histoire, et ma prière, c'est vraiment que cette lettre aussi, ce texte qu'on va voir ce matin, nous encourage aussi ce matin en tant qu'assemblée dans nos vies. Donc comme je l'ai dit, Pierre il va donner plusieurs réponses à une grande question. Comment tenir ferme dans l'épreuve? Comment tenir ferme dans la souffrance? Et autour de nous, on entend plusieurs types de réponses à ça. On peut nous conseiller de prendre du recul sur la situation, d'analyser, de méditer. On peut nous dire d'essayer de voir le bon côté des choses. Il y a pire, en fait. On peut nous conseiller aussi de garder espoir dans un destin qu'on ne connaît pas trop, ou de nous dire « t'inquiète pas, la roue va tourner ». C'est bienveillant quand on nous dit ça, c'est clair, mais Pierre, lui, il répond d'une manière complètement différente. Il va apporter des réponses complètement différentes à cette question. Ce matin, Pierre, comment vivre dans l'épreuve? Comment tenir ferme dans la souffrance? Pierre nous répond en étant saint, en recherchant la sainteté dans l'épreuve. Et on ne s'attendrait pas forcément à cette réponse. La sainteté dans la Bible, c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs facettes. La première facette, et je pense que c'est ce qui nous est venu tous en tête premièrement, c'est la perfection. C'est être saint, c'est être sans défaut, être sans péché. Il n'y a rien de mauvais. Et c'est vrai, c'est une des facettes de la sainteté. C'est la sainteté de Dieu. Mais il y a aussi une autre facette dans la Bible. La sainteté veut aussi dire être consacré à Dieu, être dédié à Dieu, être mis à part pour Dieu. Souvenez-vous, dans l'Exode, il n'y a pas si longtemps, on avait un texte qui parlait des instruments qui étaient utilisés dans le temple, dans l'Ancien Testament. Et ces instruments étaient saints, comme les vêtements des prêtres, ces vêtements étaient saints. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient dédiés à Dieu. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient mis à part pour Dieu. Et ce matin, c'est de cette sainteté-là qu'il est question. Cet accent est mis sur la sainteté, c'est être mis à part pour Dieu. Pourquoi être saint dans l'épreuve? Comment être saint dans l'épreuve? Être mis à part pour Dieu, être consacré à Dieu dans l'épreuve? C'est ce qu'on va voir dans le texte de ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Pierre, chapitre 2, et je vais lire les versets 4 à 10. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Pierre nous dit ce matin que nous devons rechercher la sainteté dans l'épreuve, la consécration à Dieu dans l'épreuve, en regardant à Jésus pour vivre comme son peuple. En regardant à Jésus pour vivre comme son peuple. Et on va voir ça en deux parties ce matin. Premièrement, Pierre nous dit que Jésus est la pierre angulaire choisie par Dieu. Et deuxièmement, que l'Église est une maison spirituelle édifiée par Dieu. Et ce texte ce matin, c'est un peu le socle aussi. On est au début de la lettre de Pierre, c'est un peu le socle sur lequel Pierre va construire le reste aussi de son épître. Premièrement, Jésus est la pierre angulaire choisie par Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, Pierre il va utiliser une image pour parler de Jésus. Il va le comparer à une pierre vivante. Une pierre vivante qui peut être à la fois une pierre choisie, une pierre précieuse, mais aussi une pierre d'achoppement, une pierre rejetée, un rocher propre à faire trébucher. Et la première image qu'on va regarder, c'est celle de la pierre choisie, précieuse pour Dieu et pour les hommes. Regardez au verset 4. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Et moi, je me suis demandé pourquoi elle est précieuse devant Dieu. Pourquoi Jésus est-il précieux devant Dieu ? Parce qu'il est le centre de l'histoire. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. Toute la Bible pointe vers Jésus. L'Ancien Testament annonce Jésus, le Nouveau Testament le révèle. Jésus, qui est venu sur la terre, qui a été rejeté par les hommes, qui est mort crucifié, qui est ressuscité, c'était pas un accident de parcours, c'était pas un imprévu, c'était pas non plus un détail du plan de Dieu, c'était l'apogée de son plan. Tout s'est passé comme Dieu l'avait prévu. Jésus est précieux devant Dieu parce qu'il est le centre de son plan. Mais regardez versets 6 et 7. Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Jésus n'est pas seulement une pierre précieuse pour Dieu. Jésus est aussi une pierre précieuse pour ceux qui croient en lui. Mais où est-ce qu'il veut en venir, Paul, quand il nous dit ça, quand il nous demande de nous approcher de Jésus, la pierre précieuse ? Dans l'épreuve, Pierre, il veut qu'on se souvienne de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, de pourquoi est-ce qu'il est une pierre si précieuse pour nous, pourquoi il est une pierre si précieuse pour ceux qui croient en lui. Il veut qu'on se souvienne la base des choses, la base de notre appartenance à Dieu, notre premier amour, ce qui fait que nous sommes adorateurs de Dieu aujourd'hui. Il veut qu'on se souvienne que Dieu est bon, et bah, comme Pascal l'a dit, que nous ne le sommes pas. Qu'on a tous désobéi à Dieu, qu'on a tous fait du mal à quelqu'un, à soi-même. On a tous été jaloux, on a tous été envieux, on a tous éprouvé de la haine envers quelqu'un. Pierre veut qu'on se souvienne que Dieu est un Dieu saint et qu'on était sous sa colère. Et la Bible dit très clairement. Mais Pierre, il veut qu'on se souvienne d'une chose. Pierre veut qu'on se souvienne qu'on mérite la mort devant Dieu, mais que Dieu nous donne la vie en Jésus-Christ. Jésus est celui qui a payé à ma place les conséquences de mes péchés sur la croix. Il est celui qui a subi la colère de Dieu que je méritais. Il était innocent et il s'est sacrifié pour me sauver. Et c'est quand on se souvient de tout ça que Jésus devient précieux pour nous. Sans ça, Jésus, on n'en a pas besoin en fait. C'est pour ça que Jésus est précieux pour nous. Parce qu'il est, mon salut, il est notre salut. Il est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Celui qui efface nos fautes. Et voilà ce que Pierre veut que nous fassions quand il nous invite à nous approcher de Jésus. La pierre vivante. Pierre veut qu'on soit émerveillé devant lui. Jésus est ma pierre précieuse. Jésus est une pierre précieuse. Il m'a sauvé, il m'aime. Je ne sais pas vous, c'est beau. Moi, j'étais heureux de voir tout ça, cette parole qui est magnifique. Mais je ne sais pas vous, mais c'est très difficile dans l'épreuve de se souvenir de tout ça. C'est très difficile quand on passe dans des souffrances de se souvenir de tout ça et de s'en contenter. Parce qu'il y a des choses affreuses qui se passent dans nos vies souvent. Quand vient l'épreuve, on se pose des questions. On se demande pourquoi. Pourquoi Dieu permet ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que Dieu m'aime plus? Qu'est-ce qui se passe? Et on regarde plus facilement ailleurs qu'à Jésus, en fait. Très facilement ailleurs qu'à Jésus. Et c'est pour ça que c'est un impératif dans la bouche de Pierre. C'est le seul impératif de ce texte de ce matin. Approchez-vous de Jésus. L'épreuve fait souvent l'effet d'une tempête. Il y a tout qui bouge. Et Pierre nous dit, regardez à Jésus. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui votre pierre précieuse. C'est lui qui est encore là pour vous. Dieu est précieux et Dieu vous aime. Même dans l'épreuve. Et il nous dit, même dans l'épreuve, vous avez besoin du pardon de Dieu. Même dans l'épreuve, en regardant à Jésus, on sait que Dieu nous aime. Ailleurs dans la Bible, ça m'a fait penser à ce passage de Paul, c'est Paul qui nous parle de l'amour de Dieu dans l'épreuve à la fin du chapitre 8. Je vais vous le lire. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pierre nous encourage à passer à la pratique. Dans l'épreuve, regardez à Jésus. Dans la souffrance, Dieu vous aime malgré les circonstances de votre vie. Il est votre pierre précieuse. Et ce matin, si vous êtes dans l'épreuve, dans la souffrance, Pierre vous invite à plonger vos regards dans l'amour de Dieu pour vous, en mourant sur la croix. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Mais attention, Pierre ne dit pas que c'est facile. Pierre ne dit pas « ça viendra comme ça ». Et il ne dit pas non plus que nos souffrances elles disparaîtront quand on le fera. Mais il dit que même dans la souffrance, on peut connaître l'amour de Dieu. Ça me fait penser au psaume 23, quand le psalmiste dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, tu es avec moi. » Tu es avec moi. Il est avec nous dans notre souffrance. Et ce que Pierre nous dit ce matin, ça peut aussi nous aider à prier, comme on l'a fait ensemble en assemblée, tout à l'heure en début de culte. Comment prier quand je souffre? Comment prier pour quelqu'un qui souffre? Bien sûr, on peut prier et on ne peut pas s'empêcher de prier pour que la situation s'améliore parce que c'est ce qu'on veut. Mais surtout, on peut prier pour la foi de la personne. On peut prier pour notre propre foi. On peut prier pour que, même dans l'épreuve, Jésus soit ma pierre précieuse. Seigneur, garde-moi les yeux fixés sur Jésus, même dans l'épreuve. Seigneur, aide cette personne pour que, même dans l'épreuve, Jésus, elle regarde à Jésus et que Jésus soit sa pierre précieuse. Pierre nous dit que Jésus n'est pas seulement une pierre choisie et précieuse devant Dieu, elle est aussi une pierre, verset 7, la pierre rejetée par ceux qui construisaient. Verset 8, regardez, elle est aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Pourquoi est-il rejeté? La première étape pour demander pardon à Dieu, c'est de reconnaître qu'on l'a offensé. Et ça, c'est humiliant. Et c'était déjà le cas du temps de Jésus. Il y avait plein de personnes qui faisaient plein de belles choses pour Dieu, qui priaient beaucoup, qui jeûnaient beaucoup, qui allaient tout le temps au temple, qui donnaient beaucoup d'argent, qui faisaient plein de choses pour Dieu, qui pensaient que Ils faisaient tout pour plaire à Dieu. Ils ne pouvaient pas s'imaginer en fait qu'ils offensaient Dieu aussi dans d'autres parties de leur vie. Ils pensaient que Dieu allait les récompenser pour leurs bonnes actions et puis effacer, ne pas tenir compte des mauvaises. Mais non, il fallait que quelqu'un paye. Ces gens pensaient qu'ils étaient des bonnes personnes alors qu'en fait ils faisaient les choses hypocritement, avec hypocrisie, pour le paraître. Mais pire encore, ils ne pouvaient pas s'imaginer que le Messie de Dieu qu'ils attendaient ressemblerait à Jésus. Pour eux, c'était impensable que Dieu s'humilie ainsi, jusqu'à être crucifié sur une croix par ses propres créatures. Imaginez, le Dieu qui d'un claquement de doigts pouvait tout détruire s'est fait crucifier par ses propres créatures. Ils avaient même écrit sur sa croix « Roi des rois » pour se moquer de lui, pour se moquer de leur créateur. Et le pire, c'est que Dieu avait annoncé ce qui se passerait, et que ça se passerait comme ça. Ce matin, on a lu le début d'Ésaïe 53, et je peux lire la suite de ce qu'on a lu ce matin. En parlant de Jésus, dans l'Ancien Testament. « Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus a été traité comme un coupable alors qu'il était innocent. Et si Jésus était venu aujourd'hui, je ne sais pas si ça aurait été bien différent. Je ne sais pas si les hommes ont beaucoup changé. Hélas, je crois qu'on reste les mêmes. On se prend pour des sages souvent, des gens bien, si on s'écoute soi-même, alors qu'on est les premiers à dire qu'on est menteur, qu'on a tous désobéi à Dieu, qu'on a tous pensé du mal de quelqu'un, qu'on a tous été jaloux. Et malgré ça, on se prend pour quelqu'un de bien qui n'a pas besoin de Jésus. Si on est quelqu'un de bien, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Jésus? Ben c'est précisément comme ça que Jésus est la pierre rejetée. Les hommes ne veulent pas de Jésus parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'on a des choses à régler avec Dieu et qu'on a besoin de Jésus pour ça. On ne peut pas être neutre. L'indifférence, c'est déjà un rejet de Jésus. Regardez verset 8. « Ils ont rejeté Jésus parce qu'ils ont désobéi à la parole. Ils ont rejeté sa parole, ils ne l'ont pas cru. » Jésus, quand, ils n'ont pas cru Jésus quand il disait qu'ils avaient à demander pardon pour leurs péchés et que c'est lui qui peut les racheter. Alors les hommes du temps de Jésus ont rejeté son message, ont rejeté Jésus. Et aujourd'hui, ce message est toujours le même. Et si ce message a déjà été rejeté par des hommes, pourquoi est-ce qu'il le serait moins aujourd'hui? Si Jésus a souffert, comment est-ce que l'on pourrait croire que nous, on y échappera alors que c'est le même message? Et c'est ce que Pierre veut nous dire aussi. Jésus a été rejeté, nous serons aussi rejetés. Christ a souffert, nous passerons aussi par des souffrances. Pierre dira un peu plus loin dans sa lettre, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris par la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. » Dieu ne nous a pas promis une vie sans soucis, mais une vie avec lui. Et si vous êtes chrétien et que vous passez par des souffrances, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. Christ y est passé et nous y passerons tous. La plus grande bénédiction de Dieu, ce n'est pas une vie sans souci, mais c'est une vie pardonnée. C'est d'être réconcilié avec son Créateur. Notre plus grand problème, même si c'est difficile à dire et à entendre dans certaines circonstances, ce n'est pas notre souffrance, c'est notre péché. Vous avez été trahi, Jésus aussi. Vous avez été persécuté, Jésus aussi. On s'est moqué de vous, on s'est moqué de Jésus. Vous vous êtes retrouvé seul dans l'épreuve, Jésus aussi. Et ça, ça peut nous aider. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui est loin dans nos souffrances. On n'a pas un Dieu qui connaît nos souffrances parce qu'il connaît tout. On a un Dieu qui connaît nos souffrances parce qu'il a lui-même connu la souffrance personnellement. Il est venu, il s'est abaissé à nous. Il connaît nos souffrances parce qu'il l'a vécu et il a lui-même souffert beaucoup plus que nous. Et lui a souffert à cause de nous. Et dans cette première partie, Jésus est la pierre précieuse, aussi la pierre rejetée. Pierre nous invite à nous souvenir de l'Évangile. Dans la souffrance, Dieu m'aime. Et dans la souffrance, Dieu est avec moi. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Jésus. Pourquoi Pierre nous dit ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la sainteté, tout ça? En fait, tout. C'est la base. C'est la base de la sainteté. Pour vivre une vie consacrée à Dieu, il faut comme fondation, comme pierre angulaire, Jésus. Pour vivre une vie dédiée à Dieu, il faut Jésus comme fondation et comme pierre angulaire. Et ça, c'est vrai, même dans l'épreuve. Si vous croyez en ce message, Dieu fait de vous une pierre vivante, d'après ce texte, et de Jésus, la pierre angulaire de votre vie. La pierre angulaire, ce n'est pas une pierre qu'on met n'importe où, qu'on jette comme ça. La pierre angulaire, c'est la pierre autour de laquelle toutes les autres pierres vont se positionner. C'est la pierre de référence dans notre vie. Et le texte nous dit que c'est Jésus, cette pierre angulaire, et que nous sommes ces pierres vivantes qui s'amassent autour de cette pierre angulaire pour former un édifice. C'est la deuxième partie qu'on va voir ce matin, c'est l'Église est une maison spirituelle édifiée par Dieu. Dans le verset 5, vous avez peut-être des versions un peu différentes qui disent « Laissez-vous édifier », je sais, en second 21. Dans d'autres versions, peut-être, vous avez « Construisez-vous ». En fait, l'idée derrière ce passage, c'est que nous sommes édifiés. En devenant des pierres vivantes, Dieu nous édifie pour former une maison spirituelle. Ce n'est pas deux étapes. Ce n'est pas la première étape, approchez-vous de Jésus. Et la deuxième étape, prenez part à l'Église ou construisez-vous votre Église. C'est une seule étape, une seule action de notre part. En s'approchant de Jésus, on devient son Église. En s'approchant de Jésus, on devient une partie de cette Église. Et d'après ce passage, l'Église, ben, ce n'est pas un bâtiment. C'est les pierres vivantes. C'est des pierres vivantes, c'est nous l'Église. Nous sommes des pierres vivantes autour de Jésus, notre fondation, parce qu'on a la même pierre fondatrice qu'est Jésus. Et ce qui nous unit ce matin, c'est pas autre chose que Jésus. On n'est pas ensemble parce qu'on se ressemble, on n'est pas ensemble parce qu'on a les mêmes goûts, on n'est pas ensemble parce qu'on a le même âge, parce qu'on a les mêmes projets, le même métier, etc. Vous pouvez agrandir la liste. On est ensemble parce qu'on a Jésus comme pierre fondatrice de notre Église, de notre foi. C'est ça qui nous unit. Et sur cette fondation, nous sommes des pierres vivantes qui forment une maison spirituelle. Les pierres, elles s'empilent les unes sur les autres, et l'Église, c'est plusieurs pierres vivantes. Une pierre toute seule ne peut pas former un édifice. Une pierre toute seule ne peut pas former un édifice, il en faut plusieurs. Dieu veut que nous partagions des moments ensemble. Si Dieu donne la vie à une pierre, c'est pour l'ajouter à son édifice. Pas pour la laisser où elle est. Et Dieu nous encourage à vivre ensemble autour de Christ, la fondation de notre Église. Et je suis d'accord, parfois c'est pas évident. Quand on met beaucoup de pécheurs ensemble, des fois il y a des étincelles. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais encore une fois, ce qui nous unit, c'est pas qu'on soit d'accord sur tout. C'est qu'on est d'accord sur la chose la plus importante, c'est que Jésus est notre sauveur. Jésus est la pierre angulaire de notre vie et de notre Église. Et des pierres vivantes qui forment un édifice, c'est aussi des pierres qui se soutiennent. C'est aussi des pierres qui se soutiennent. Dans l'épreuve, qui s'aident ensemble à regarder, regarde la fondation sur laquelle on est posé. Regarde ce que tu vis, mais regarde notre fondation. Regarde à Christ. L'Église a aussi un rôle pour s'encourager ensemble à regarder à Jésus. Pourquoi est-ce que Pierre nous dit tout ça? Dit tout ça à des gens qui vivent des épreuves, à des gens qui vivent dans la souffrance. Parce que même dans la souffrance, c'est vrai. Même dans la souffrance, nous sommes des pierres vivantes que Dieu utilise. Même dans la souffrance, même dans l'épreuve. Ce qu'a fait de Dieu en nous ne change pas parce qu'on passe par des épreuves, ne change pas parce qu'on passe par des souffrances. La souffrance, le rejet n'y change rien. L'Église, ce n'est pas le club des joyeux chrétiens qui ne souffrent jamais, mais des pierres vivantes qui sont au contact de Jésus. C'est ce que le texte dit. Regardez verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. » Ça vous rappelle rien ? Exode, qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Il cite l'Exode et une partie d'Ésaïe ensemble. L'Exode où, après, il y a les Israélites qui sortent d'Égypte, qui sont en esclavage en Égypte, Dieu les délivre de l'Égypte, les mène dans le désert jusqu'au pays promis. Et Dieu s'adresse à son peuple à ce moment-là et leur dit « Vous êtes mon peuple, je vous ai choisi. Je vous ai choisi pour sortir d'Égypte, c'est moi, c'est mon œuvre, et vous êtes en chemin, vous êtes en exode, avec moi, au milieu de vous. » Et Pierre utilise cette image, pas au hasard. C'est pour nous dire que c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes en exode. Notre pays promis sera plus tard. Nous sommes dans l'exode ici. Nous vivrons des hauts et des bas. Nous sommes quand même le peuple de Dieu. Un peuple saint parce qu'il est mis à part pour lui, même dans l'exode, même dans l'épreuve. On est saint, pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est mis à part pour lui, racheté par le sang de Jésus. Et ça, c'est vrai, même dans l'épreuve. Mais c'est pas tout. Le peuple de Dieu, cette église, cette maison spirituelle a une fonction. Elle a un rôle, celui de l'adorer. Regardez verset 5. Nous sommes une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Regardez verset 9. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Magnifique. Le peuple de Dieu adore Dieu. L'adoration, c'est ce qui est dans l'ADN de l'Église. C'est le but de l'Église, c'est le but de nos vies. L'adoration, c'est la réaction normale quand on s'approche de Jésus, la pierre précieuse. Regardez verset 10 encore. « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Nous pouvons être émerveillés d'un si grand salut, même dans l'épreuve. Nous pouvons adorer Dieu, même dans l'épreuve. Et ça nous fait du bien. C'est ce que Pierre veut nous dire ce matin. Et nous pouvons adorer Dieu de plusieurs manières. C'est ce que nous faisons le dimanche matin, ici, par nos chants, par la louange. On n'est pas là pour passer le temps, on est là pour adorer notre Dieu. Nous chantons qui est Dieu, parce qu'il est digne de nos louanges. Nous chantons qui est Dieu pour nous encourager ensemble, pour nous rappeler de qui est Dieu, pour nous faire du bien. C'est tellement bienfaisant quand on est dans une situation difficile de chanter en assemblée et d'entendre autour de nous des gens chanter que Dieu est bon en regardant à Jésus-Christ. En regardant à Jésus-Christ. On peut adorer Dieu aussi par la prédication, par ce qu'on fait là, par sa parole, par chercher à mieux comprendre Dieu, à mieux connaître Dieu dans sa parole. De la même manière que Christ, Jésus a été rejeté parce qu'ils ont rejeté sa parole, nous pouvons nous approcher de Christ en nous approchant de sa parole. C'est pour ça qu'on parle de la Bible tous les dimanches matins. C'est pour ça qu'on parle de la Bible dans nos groupes de maison, on étudie Colossiens en ce moment. C'est pour ça qu'on parle de la Bible dans nos groupes de jeunes. Ou qu'on propose aussi un plan de lecture en église pour s'encourager ensemble. La parole de Dieu est encourageante. Et l'adoration, ça peut être aussi et tout simplement parler à Dieu. Le texte nous dit que nous sommes des prêtres royaux. Et un des buts des prêtres dans l'Ancien Testament, c'était d'être des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous prêtres. Nous n'avons pas besoin d'offrir des sacrifices de reconnaissance. On a juste besoin de dire merci. On peut dire merci. On sait que Dieu est là, que Dieu nous entend. Merci pour son amour, merci pour sa fidélité, merci pour qui il est. Et moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, quand je passais par des moments un peu difficiles, ce qui est encore le cas aujourd'hui, hein, j'avais un ami qui m'avait conseillé, quand t'es pas bien au point de même pas pouvoir prier ou pas envie d'ouvrir ta Bible ou des choses comme ça, dire merci. Juste dire merci. Merci pour Dieu. Merci pour la croix. Merci pour quelque chose de beau. Merci pour ce matin. Merci parce que nos cœurs battent encore ce matin par la grâce de Dieu. On peut dire merci, tout simplement. Et c'est quelque chose, moi, en tout cas, qui m'aide dans les périodes de doute, dans les périodes de difficulté. Le dernier point que Pierre met en avant, c'est que par notre adoration, nous témoignons de qui est Dieu. Regardez verset 9. « Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Le rôle du prêtre dans l'Ancien Testament était aussi de représenter Dieu auprès du peuple, d'être un témoignage vivant de qui est Dieu. Et moi, parfois, quand on me demande dans la vie « Si Dieu est bon, pourquoi il y a autant de souffrance ?» Déjà, la plupart du temps, je ne sais pas trop comment répondre, parce que voilà. Mais souvent, j'ai envie de dire « Allez voir des chrétiens qui souffrent. » Moi, j'ai déjà vu et j'ai déjà eu des témoignages de vie de gens qui sont dans le deuil, dans la difficulté, dans la maladie, dans un cancer, dire « Dieu est bon. » Dieu est bon au milieu de tout ça. Et moi, ça m'a toujours encouragé, ça m'a toujours surpris. Mais à vue humaine, c'est de la folie de dire ça. Mais on peut être capable de le dire parce que la personne, elle regardait à Jésus. Parce que la personne, elle avait les yeux fixés sur Jésus. Malgré mon épreuve, je sais que ça ne va pas s'arrêter demain. Ça ne va pas s'arrêter, ce n'est pas une prière magique. Mais je sais que Dieu est bon parce que je regarde à Jésus même dans l'épreuve. Et cette adoration, malgré la souffrance, dans la souffrance, c'est un énorme témoignage. Et c'est le résultat de regarder à Jésus. On est son peuple, on l'adore. Même dans la souffrance, on peut l'adorer. Pour finir, peut-être que ce matin, vous avez été interpellé parce que vous vivez une situation un petit peu compliquée où vous vivez de vrais problèmes, comme on en a parlé ce matin. Mais comme chacun de nous peut-être peut en vivre, c'est pas la course à celui qui a le plus gros problème. On a tous des soucis, on a tous des épreuves, on a tous des souffrances. Des rejets, des moqueries à cause de notre foi, au travail, à l'école, par nos voisins, la maladie, peut-être même la culpabilité à cause de secrets qu'on garde enfouis dans notre cœur. Et Pierre, il minimise pas la souffrance ce matin. Il dit pas, t'inquiète pas, c'est pas si grave. Il dit, la souffrance, c'est affreux. Il dit, la souffrance, c'est immonde, ça devrait pas exister. Ça crie que le monde ne tourne pas rond. Ça crie que le monde n'est pas comme il devrait être à cause du péché. Mais il nous pose la question. Dans ta situation, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus dans la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui? Ça peut être la difficulté, mais ça peut être aussi le confort. Quand tout va bien, Jésus, ça peut être la roue de secours qu'on laisse dans le coffre, parce qu'on se dit que si tout va bien, on n'a pas besoin de lui. Et Pierre nous encourage à avoir une foi qui dépend pas des circonstances de la vie, mais qui dépend de Jésus. On vivra tous des hauts et des bas, et Pierre, il nous dit, regarde à Jésus dans tous les cas. Il nous demande d'avoir le bon réflexe, d'aller vers Jésus, pour l'adorer, parce qu'on est son Église. On peut se dire, même dans l'épreuve, je sais que Dieu m'aime, qu'il m'a racheté. C'est lui mon plus grand trésor. C'est lui ma pierre précieuse. Sa grâce me suffit. Et bien sûr que c'est difficile. Bien sûr qu'on ne vit pas tous les mêmes souffrances. Mais nous avons comme Jésus comme pierre angulaire et comme pierre précieuse. Il y a un passage qu'on a vu hier soir à la JAB Senior, au groupe de jeunes adultes avec Tony sur Marc. Et ça m'a encouragé parce que ce message-là, je me dis, purée, mais c'est au-dessus de mes forces des fois, et je suis sûr que des personnes, pour certaines personnes, c'est au-dessus de mes forces d'aller vers Jésus, de regarder vers Jésus dans la situation dans laquelle je suis. Et c'était un passage dans Marc où il y a un homme qui dit à Jésus, Seigneur, je crois en toi, viens au secours de mon incrédulité. J'y arrive pas. Dieu, il ne nous demande pas là d'aller vers Dieu par nos propres forces. On va se rapprocher, allez, on va porter nous-mêmes notre fardeau, et on va se rapprocher de Dieu, allez, tous joyeux comme ça, allez, c'est cool. Non, il ne nous dit pas ça. Il nous dit aussi de prier. On peut compter sur Dieu, c'est lui qui œuvre en nous. Et parce que c'est Dieu qui œuvre en nous, c'est ce qui rend ça possible. Si ça dépendait de nous, si on comptait sur nous, ça aurait aucun sens de s'approcher de Dieu. Enfin, ça serait impossible de s'approcher de Dieu dans la souffrance. Mais parce que c'est Dieu qui est en nous, c'est Dieu qui travaille en nous, et à Dieu tout est possible, on peut s'approcher de Dieu dans la souffrance et dire qu'il est bon dans la souffrance. Encourageons-nous dans l'épreuve à adorer Dieu en regardant à Jésus. C'est ma prière ce matin. Et je vais prier pour conclure. Seigneur, on est tout petit devant un Dieu si grand que toi, si saint, si parfait. Et tu nous regardes comme un père aimant. Tu es venu mourir à la croix pour qu'on puisse être en règle devant toi. Et Seigneur, je te prie que ce matin, si des personnes ne sont pas en règle devant toi, que tu puisses les toucher, que tu puisses leur montrer leur besoin d'être en règle devant toi et que tu les aimes. C'est pas à eux de faire leur preuve, c'est toi qui as tout pris par amour sur tes épaules, sur la croix. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui souffrent ce matin, pour ceux qui passent par des souffrances, qu'on puisse les encourager, qu'on puisse s'aider à regarder à toi, à regarder à ta bonté envers nous, à regarder à ta grâce envers nous. On est pardonné. Et c'est difficile. C'est pas une fois et puis après, c'est bon pour tout le temps. Tous les jours, c'est difficile. Mais tous les jours, tu es avec nous. Et tous les jours, tu œuvres en nous. Seigneur, je veux vraiment te remettre cette assemblée, te remettre c'est la suite de l'épître de Pierre qu'on suit ensemble, qu'on soit encouragé, qu'on soit encouragé par toi dans nos épreuves et dans notre souffrance. Amen.